RCF. Le 9 décembre prochain sera installée la Convention citoyenne sur la fin de vie. Et nous allons parler fin de vie avec Stéphane Melot. Il est cadre supérieur de santé au centre hospitalier de Dinan, responsable de l'unité mobile de soins palliatifs. Il est aussi diacre permanent. Je voulais vous demander, pour commencer, de nous dire qu'est-ce qui vous a amené personnellement à travailler dans une unité de soins palliatifs.
Ce qui m'a amené à travailler dans une unité de soins palliatifs, c'est d'abord une envie, un désir d'engagement auprès des personnes en fin de vie. Et si je remonte loin dans ma carrière, qui est une carrière qui va aller se terminant bientôt, mais dans les années 80, c'est un engagement auprès des personnes soignées qui étaient dans des conditions de fin de vie qui, pour moi, ne me satisfaisaient pas et me révoltaient, pour une part. Et j'ai bénéficié, dans ces années 80, de l'engagement de nombreux autres soignants qui se mettaient en route à l'époque, même dans les années 75, et que j'ai donc rejoint ce mouvement qui a perduré jusqu'à aujourd'hui, qui s'est structuré, qui a vu la création d'une association de soins palliatifs, la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs, dans les années 90. Et voilà, les choses se sont faites comme ça. D'abord par une reconnaissance d'une insatisfaction dans la manière de donner des soins aux personnes en fin de vie que j'ai vécu dans mes études d'infirmier et puis après.
On voit que finalement, cette question des soins palliatifs, on vous entend. Et votre expérience, elle remonte à loin, une quarantaine d'années.
Oui.
Et que on peut dire que ce qui se vit dans les soins palliatifs, vous êtes, je le disais, responsable de l'unité mobile des soins palliatifs dans la région de Dinan, qui dépend du centre hospitalier de Dinan. Et peut-être que beaucoup de personnes ne savent pas ce qu'est une unité mobile de soins palliatifs. C'est quoi finalement concrètement ?
C'est un fait. Alors, une unité mobile de soins palliatifs, c'est une petite équipe de soignants. Je vais simplement prendre l'exemple de Dinan. Donc, moi, je suis cadre infirmier, donc infirmier dans l'âme, mais responsable infirmier. Dans notre équipe, il y a deux infirmières à temps plein, deux médecins à mi-temps chacun. Donc c'est une petite équipe mobile avec une psychologue aussi. Et on se rend au domicile des patients, dans les EHPAD, dans les services de soins pour aider à accompagner et prendre en charge les patients. Donc notre activité principale, c'est du conseil. C'est aussi parfois du soin direct avec des interventions d'écoute et d'aide psychologique pour les patients en fin de vie eux-mêmes, mais aussi et surtout d'ailleurs pour leur entourage. Donc en fait, une grosse partie de notre travail, c'est de connaître sur le bout des doigts le réseau. Les réseaux pour que les personnes qui ne peuvent plus être prises en charge à domicile puissent arriver rapidement à l'hôpital sans passer par les urgences, par exemple, pour aider les EHPAD à mettre en place avec l'achat des soins techniques plus lourds quand ça se présente. Voilà, c'est surtout dans le conseil. Et puis, comme son nom l'indique, on est mobile, donc on se déplace sur tout le territoire du secteur de Dinan. On est un élément de maillage du territoire. Et on est un des éléments aussi de la prise en charge palliative avec d'autres unités que sont les lits identifiés de soins palliatifs, dont on en a 14 à Dinan, et aussi des unités de soins palliatifs qui sont pas nombreuses sur le territoire français. La plus proche de nous à Dinan est à Saint-Malo, et la seule unité de soins palliatifs du département des Côtes-d'Armor est à Guingamp. Autant vous dire qu'on ne travaille pas avec l'équipe de Guingamp, on travaille avec l'équipe de Saint-Malo, de Rennes parfois.
Pour expliquer encore davantage, si vous aviez à dire vraiment la spécificité concrète de ceux qui sont dans le soin palliatif par rapport à d'autres soignants, qu'est-ce que vous diriez ?
C'est difficile parce que si on parle de spécificité, et si j'insiste sur la spécificité du soin palliatif, il faut le faire, on va avoir tendance à dire que à un moment donné de ma maladie, il y a du curatif et à un moment donné, il y a du palliatif. Alors que c'est pas comme ça que ça se présente. Il y a du curatif et du palliatif mêlés dès l'origine. Donc ce qui fait notre différence avec des soignants qui ne sont pas en soins palliatifs, c'est probablement peut-être davantage une manière de se disposer à entendre la personne dans sa singularité, dans sa maladie. Mais si je dis ça, je vais énormément vexer mes collègues qui travaillent dans des unités de cardiologie et des unités de pneumologie. Donc je ne serai pas juste en disant ça. Je dirais simplement que les soins palliatifs font un focus et une focale sur la maladie chronique grave évolutive qui n'a plus de ressources médicales à la guérison. Mais il n'y a pas que les soins palliatifs qui sont pris dans ce champ-là, et que on est aussi dans la volonté d'aider nos collègues qui sont plus dans le curatif à singulariser la prise en charge de Pierre, Paul, Jacques, Germain ou Germaine. C'est difficile comme question, parce que ça voudrait dire qu'il y a du soin curatif et du soin palliatif, ce qui est quand même notre manière, quand même un peu, mais c'est aussi nos objectifs de faire entendre que c'est pas ça le soin palliatif, mais de faire une dichotomie trop grande entre je peux être guéri de ma maladie, puis je prends conscience que je ne peux plus en guérir, et donc je passe en soins palliatifs. On voudrait sortir de ça. Mais force est de constater qu'on y est quand même mis à cet endroit-là.
Sur RCF avec Stéphane Mello, nous parlons fin de vie à l'occasion de la convention citoyenne voulue par le président de la République pour réfléchir à cette question de la fin de vie. Alors on peut dire en France, on avait la loi Claeys-Leonetti qui fonctionne notamment pour l'accompagnement de fin de vie, pour le soin palliatif, etc. Et donc le président de la République a voulu remettre ce sujet, dans l'actualité, avec les questions qui sont posées, comme celle du suicide assisté, comme celle de l'euthanasie. Est-ce que il faut dire, Stéphane Mello, que finalement, quand on réfléchit à cette question de la fin de vie, peut-être, puisque vous êtes soignant vous-même, mais on pourrait dire la même chose pour les familles, qu'il ne faut jamais oublier la question de l'importance de la complexité devant chaque cas que l'on vit d'une certaine manière.
C'est exactement ça, et ça fait vraiment référence à la singularité de chaque situation, fait vraiment référence à une grande tradition éthique des soins dans nos pays. La tradition anglo-saxonne n'est pas située du tout au même endroit. Et ça, je vais vraiment pas choquer, quelle que soit la position soignante des uns et des autres. Ce que l'on cherche à vivre dans le soin, c'est la singularité de chaque situation. L'appendicite de Jacques ne sera pas celle de Paulette, etc. Donc la manière de vivre l'entrée dans la maladie, c'est vraiment sur ça qu'on est attentif. Et donc les projets de loi qui sont en cours de discussion, là, comme vous l'avez rappelé avec la Convention citoyenne et puis les débats parlementaires à venir, ces questions qui sont éminemment prégnante pour chacun de nous, qui d'entre nous, et moi le premier, qui a envie de souffrir? On n'est pas masochiste. Et donc, si on me dit qu'une loi sur la fin de vie qui permet le suicide assisté ou l'euthanasie me permettra de ne pas souffrir, je vais quand même plutôt preneur. Mais par contre, si on me dit aussi que toute écoute singulière de ma souffrance par des équipes de soins palliatifs ou des équipes médicales sera entendu et soulagé, dans le même cas, je suis preneur. Et aujourd'hui, force est de constater que les lois qui sont en vigueur dans notre pays, la loi Leonetti de 2005, la loi Claeys-Leonetti 10 ans après, répondent à nos soucis, à nos besoins. Je suis pas juriste, je veux pas faire non plus, je veux pas me faire dire ce que je ne dis pas. Le soin, c'est pas de la loi. La loi va baliser un certain nombre de choses, mais je ne soigne pas les personnes ni à coup de protocole, quoique ils ont leur valeur, ni avec le code de la santé publique dans les mains. Quand une personne dans notre équipe mobile de soins palliatifs nous demande une euthanasie, et ça arrive fréquemment, je ne vais pas aller vers la personne en lui montrant le code de santé publique, en lui disant « j'ai pas le droit de faire une euthanasie ». C'est pas ça, c'est d'écouter la demande. Donc, j'ai pas dans ma tête le texte de loi quand je réponds à la personne qui me demande une euthanasie. J'ai ma compétence soignante, j'ai mon arsenal de compétences autour de moi que sont mes collègues médecins, mes collègues psychologues, mes collègues assistantes sociales, mes collègues du domicile, tout un réseau qui va converger vers une demande particulière dont on va essayer de comprendre la complexité. La loi va donner des garde-fous. La loi est plutôt du côté de l'interdit, alors que du possible, ou de l'interdit plutôt, alors que l'éthique est plutôt du côté du comportement, de la bonne manière de prendre en charge les gens. Donc la loi est importante, mais elle ne répondra en rien à toutes les situations singulières qu'au long de ma vie professionnelle, moi j'ai rencontrées. Comment dire, surtout en soins palliatifs, les choses ne sont pas blanches ou noires. Il y a bien des situations où, entre collègues, on n'est pas d'accord sur le fait de dire « est-ce que là, on a été plutôt à écouter la demande jusqu'à une euthanasie ou est-ce qu'on a été dans l'accompagnement de la souffrance et de calmer ses souffrances et ses douleurs jusqu'au bout ?» Eh bien, il y a des fois où, à l'intérieur même de notre équipe, on n'est pas d'accord. Mais puisqu'il y a un interdit de l'euthanasie, et là, c'est un peu le diacre qui va causer, c'est l'interdit qui me fait parler. C'est parce que l'arbre de l'interdiction est présent que je peux encore en parler et qu'on peut se dire en quoi j'ai transgressé ou pas. Si l'interdit saute, on ne se parlera plus.
Et aussi, là, vous venez d'aborder une autre question en dehors de l'interdit, c'est la question d'apaiser la douleur. Parce oui. qu'il y a cette question de la douleur qui sous-tend un peu tout ce débat sur la fin de vie, en disant, voilà, il y a des douleurs qui sont insupportables. Or, on peut aujourd'hui apaiser la douleur.
Oui, oui. Dans la plupart des cas, oui. Et c'était très présent dans la loi Leonetti, première version. D'ailleurs, ce sont nos collègues réanimateurs qui nous ont enseigné aussi dans l'écriture de la loi et après dans les soins palliatifs pour bien systématiser et bien clarifier ce qu'est le double effet. Sur le fait que apaiser la douleur, c'est quand ça domine. Quand ça domine dans notre intention, secondairement, il y aura des conséquences qui font que la vie des personnes sera abrégée. Les réanimateurs étaient pris dans des dilemmes éthiques importants sur le fait que, eux, il fallait qu'ils débranchent des machines. Nous, c'est pas tellement temps de débrancher des machines dans les douleurs extrêmes de fin de vie, c'est de donner des doses tellement fortes qu'on se dit « mais c'est la dose qui va finalement mettre fin à la vie de la personne ». Non, notre intention, c'est de soulager le plus possible la personne, quelle que soit la dose, mais quand même, c'est la maladie qui fait mourir la personne, c'est pas moi qui ai l'intention de mettre fin à la vie de la personne. Ça se joue dans ce genre de complexité. Donc vous avez absolument raison que l'essentiel du débat autour des questions de fin de vie se joue autour de la douleur et de la souffrance. Et de la souffrance, la douleur, on peut l'apaiser. Toute souffrance est-elle apaisable? J'en suis pas sûr. Ça s'accompagne par contre. Ça s'accompagne sur le plan relationnel, ça s'accompagne avec de l'écoute, ça s'accompagne avec de la relation. Même si les personnes qui travaillent en soins palliatifs comme moi sont devenues des experts dans le maniement de drogues pour soulager la douleur, y compris des drogues anesthésiques, on a pris beaucoup de liberté dans les soins palliatifs pour aller manipuler des drogues qui n'étaient pas faites pour le soin. On utilise des drogues qu'on utilise dans l'anesthésie, en bloc opératoire, pour soulager certaines douleurs. Mais pour accompagner la souffrance, je ne connais pas de drogue plus efficace et plus puissante que la relation.
Alors ça, c'est l'autre aspect sur lequel il est intéressant de s'arrêter. Comment, voilà, quand une personne vit cette période, cette ultime étape de son existence, cette fin de vie, comment il est important de chercher à rester en relation, que l'on soit soignant et que l'on soit l'entourage. Là aussi, il y a un enjeu important.
Bien sûr, c'est l'enjeu fondamental. Parce que la personne en fin de vie va chercher dans le regard de ses proches, va chercher dans le regard des soignants qui se portent à son chevet avec cette question abyssale, est-ce que ma vie vaut ? Est-ce que je représente et je suis quelqu'un pour toi dans cette situation-là ? Je vais juste faire un petit parallèle pour décaler la question que vous posez par rapport aux personnes qui ont de gros troubles des fonctions supérieures en maladie d'Alzheimer. J'ai ma maman qui est actuellement dans une EHPAD qui souffre de cette maladie-là. Et à chaque fois, on me pose la question, quand tu vas voir ta maman, est-ce qu'elle te reconnaît ? Je dis, c'est une mauvaise question. C'est une question qu'il faut aussi pour les soignants. Je vais expliquer pourquoi. C'est une mauvaise question, est-ce qu'elle te reconnaît ? La bonne et seule question à laquelle j'ai à répondre, Est-ce que moi, je la reconnais dans sa situation, là, comme ma maman, qui a encore des choses à vivre avec moi et à me dire surtout. Donc, juste l'exemple là, de la une petite métaphore là, de est-ce que sa vie vaut, ça vaut aussi pour les soignants. Quand je m'approche d'une personne en fin de vie, est-ce que j'ai envie d'entendre, de comprendre que sa vie vaut pour moi et non pas que pour elle. Donc, on pourrait se dire que c'est assez égoïste, mais n'empêche que ce qui nous guette comme soignants pour vivre une vie bonne de soignant, pour reprendre un peu les mots de Ricoeur, c'est l'estime de moi-même. Et je suis dans l'estime de moi-même comme soignant quand je reconnais que la personne qui est en face de moi a encore des choses à m'apprendre et à me dire. Et que sa vie vaut, pas dans l'absolu, mais vaut pour moi, dans la situation dans laquelle elle est.
Sur RCF, nous parlons fin de vie avec Stéphane Melot. Il est responsable de l'unité mobile de soins palliatifs au centre hospitalier de Dinan. Il y a un avis à l'occasion de ce débat qui est en train de s'ouvrir autour de la fin de vie, l'avis du Comité national d'éthique, l'avis 139, qui est un avis qui est un peu différent de ce qu'avait dit ce Comité national d'éthique ces derniers temps. Est-ce que vous voulez nous expliquer ?
Un petit peu, oui. Clairement, il n'y a pas que moi qui le dis. Je ne parle pas que de moi-même, là, même si... m'est donné de le dire de manière très concrète. L'avis 139 du Comité national d'éthique fait rupture par rapport à ses avis précédents. Dans les avis précédents, l'avis 123, je crois, de mémoire, il avait été question, dans l'avis du CCNE, qui disait il n'y a pas à légiférer sur une loi sur la fin de vie, en ouvrant une porte à l'époque ou en disant il y a des exceptions d'euthanasie. J'ai dit quelque chose de cet ordre-là quand j'ai parlé des situations un peu grises, dont on pourrait, alors je ne sais pas si on pourrait s'en satisfaire, en tout cas légiférer sur une exception d'euthanasie, on ne voit pas comment les choses seraient possibles. Et les sages du CCNE avaient dit à l'époque, constatons que c'est comme ça et voilà, n'allons pas plus loin. Mais surtout ce qui fait rupture dans l'avis du CCNE, l'avis 139, l'avis d'aujourd'hui, qui à coup sûr, va avoir une grande influence sur la convention citoyenne qui va se réunir le 9 décembre et commencer à se réunir. Ce qui fait rupture par rapport aux avis précédents, c'est que les avis précédents du Comité national d'éthique, en tout cas pour ce qui est de la fin de vie, partaient des situations cliniques concrètes. De la complexité des situations, sans en masquer l'énorme complexité, mais dans l'avis 139, ils partent du contexte législatif, ce qui est très très surprenant. Ça, dans la composition de l'avis, ça fait déjà rupture. Un avis éthique qui commence par un avis législatif, un peu curieux, et d'ailleurs, il va très vite dans l'ouverture au suicide assisté. En disant, ben voilà, les choses sont décidées, peut-être, déjà. C'est un peu le sentiment que ça donne. Je suis peut-être trop vif dans ma manière de réagir là, mais c'est quand même l'impression que ça donne. Et la rupture, elle est aussi dans l'argumentation éthique. C'est-à-dire que d'emblée, d'ailleurs c'est dans le titre de l'avis, on va essayer de naviguer quelque part entre l'autonomie, la liberté de la personne et le devoir de solidarité. Alors que les avis précédents, même en dressant la complexité, partait toujours de la dignité de la vie, la dignité de la personne humaine. Là, ce concept-là, non seulement il n'est pas repris dans le CCNE, mais il dit dans son avis, on ne l'utilise pas parce que la polysémie de ce concept est beaucoup trop grande et plus personne s'y retrouve. Seulement, par deux fois, le CCNE dans son texte revient en précisant que la dignité subjective, on ne peut pas fonder deux décisions sur une dignité subjective. Donc, par deux fois, le CCNE réargumente à partir de la dignité sans le dire, mais en se fondant sur leur propre conception de la dignité. Ils disent on ne peut pas fonder sur la dignité, mais ils utilisent l'argument pour dire mais cette dignité subjective, donc ça veut bien dire qu'ils ont un avis sur la dignité de la personne. Et comme ils commencent par nous faire tout un grand schéma et toute une grande présentation des conditions législatives de nos voisins, en Oregon, en Australie, en Espagne, en Belgique, ils ouvrent des arguments qu'ils n'ont employés jamais auparavant. Et donc, là, l'équilibre difficile à trouver dans la vie, c'est vraiment entre une conception de la liberté une conception de l'autonomie et un devoir de solidarité. Donc, du côté du devoir de solidarité, le CCNE, dans son avis, est très clair. Il dit une loi sur le suicide assisté, oui, mais d'abord un devoir de solidarité et de développer les soins palliatifs. Ça aurait été quand même curieux qu'ils ne disent pas ça. Mais enfin, ça va mieux en le disant quand même. Donc, c'est une insistance forte sur le fait que les soins palliatifs ne sont pas uniformément disponibles sur l'ensemble du territoire français. Mais n'empêche que l'argumentaire éthique du CCNE, en tout cas pour nous, dans la Société française d'accompagnement aux soins palliatifs, nous fait problème. Surtout sur le concept d'autonomie et de liberté. Là, il y a quelque chose qui, pour nous, n'est pas suffisamment creusé.
Alors expliquez ça, justement.
On a toute la nuit, là. Le concept de liberté sur lequel s'appuie le CCNE, il le dit texto dans une phrase que je cite, « Pour que chaque Français et chaque Française puisse choisir les conditions de sa propre fin de vie. Comme si je pouvais me mettre à un moment donné de ma vie, à distance de moi-même, où je me contemple, en disant « je vais choisir pour moi, Stéphane, les conditions de ma propre fin de vie ». Qu'est-ce que c'est que cette autonomie et cette liberté complètement déconnectée de mon entourage ? Alors que, et là je reprends la philosophe qui est une sœur Xavière que je connais bien, qui s'appelle Agatha Zinaski, qui dit « on peut concevoir la liberté comme une ouverture relationnelle à des champs de possibles ». Et elle dit simplement « on confond vouloir par soi-même et vouloir pour soi-même ». Parce que vouloir par soi-même, je suis complètement déconnecté de mon entourage. En fait, cette conception de l'autonomie poussée à l'extrême nous inquiète, nous soignants, parce que nous implique de manière radicale. Une personne en fin de vie qui demande l'euthanasie, elle va pas le demander à son garagiste, elle va pas le demander aux journalistes de RCF, elle va le demander aux soignants. Et là, nous soignants, on dit « mais pourquoi on nous le demande à nous ?» C'est une position forcément à laquelle on fait droit. Enfin, on serait qui, nous, pour dire à ces personnes-là « vous êtes dans l'erreur ». On ne dira jamais ça. Mais on dit « mais pourquoi nous ?» Pourquoi nous, on s'impliquerait ? Et notre expérience en soins palliatifs, de manière positive comme de manière négative, l'impact de la fin de vie d'un proche, et on en a tous l'expérience, quand les choses se passent bien, dans la fin de vie d'un proche, que les choses sont apaisées, on voit bien l'impact que ça a sur l'entourage, sur les enfants, sur les frères et sœurs, enfin je ne sais quoi. Quand ça se passe mal, on voit aussi l'impact. Donc imaginez qu'une famille, parce qu'une personne de manière très lucide a demandé l'euthanasie ou le suicide assisté, de penser que ça aura zéro impact sur l'entourage. Mais la vie nous montre le contraire à tous les coins de rue. Et surtout, ce que dit Agatha Zinaski aussi, c'est que quand on est convoqué à une liberté pour l'autre ou une liberté avec l'autre, on est convoqué à la créativité. On est convoqué au fait de dire, même si tu demandes l'euthanasie, moi je ne me résous pas à t'abandonner jusque-là. Tu peux dire ça, tu peux tout dire, tu peux tout me dire, mais moi je ne me résous pas à aller répondre sans plus comprendre à ta demande. Et ça, si une loi comme ça passe, ça fait tomber 40 ans d'expérience en soins palliatifs, d'emblée.
Ça veut dire que, à des auditeurs qui nous écoutent, qu'est-ce que vous diriez ? Comment aborder cette période dans laquelle nous entrons, où il va y avoir pas mal de débats ? Ils ont commencé d'ailleurs autour de cette question de la fin de vie, où les choses sont parfois simplifiées. Je le disais, vous êtes, en commençant cette émission, vous êtes diacre permanent. On sait bien que l'Église tient à la préservation de la vie du début de la conception jusqu'à la mort, etc. Mmh. Comment aborder ces semaines, ces mois, où cette question de la fin de vie va être, on va dire, dans l'actualité d'une certaine manière.
Eh ben je vais faire une réponse de diacre tirée de l'écriture. Écoute Israël, écoute Yvon, écoute Pierre-Paul Jacques, écoute ce qu'ont à te dire les personnes en fin de vie, écoute les personnes qui sont pas d'accord avec toi, écoute s'il vous plaît, écoute d'abord les soignants en soins palliatifs qui ont donné ou qui sont encore en train de donner une grande partie de leur énergie et de leur vie à l'accompagnement des personnes en fin de vie. J'ai juste ça à dire, parce que je vais pas aller faire la leçon à qui que ce soit, mais voilà, la parole biblique de « je commence par me taire » et « je commence par écouter ». C'est la disposition spirituelle la plus profonde que je connaisse. Ce que je voulais rajouter un petit point aussi sur l'avis du CCNE, parce qu'il a ouvert une porte au suicide assisté sur des situations qu'on accompagne en soins palliatifs, mais qui ne sont pas légion. Il parle beaucoup dans son avis de la sclérose latérale amyotrophique, c'est une maladie neurodégénérative qui aboutit dès que le diagnostic est fait jusqu'à la mort. Mais entre le moment du diagnostic et le moment de la fin de vie de la personne qui va décéder par une insuffisance respiratoire très importante, le CCNE ouvre le suicide assisté aux personnes qui voudraient ne pas vivre les conditions de la fin de vie d'une telle maladie, mais au tout début, au diagnostic. Donc ça, c'est aussi une approche qui fait rupture dans la vie du CCNE. Parce que on a peu d'éléments scientifiques, d'observation sur ce que vivent et comment vivent les personnes à l'annonce du diagnostic.
Stéphane Melot, est-ce que finalement tout ce débat sur la fin de vie ne nous pose pas à tous et ne nous invite pas tous à nous poser la question du rapport de notre société à la mort ? Parce que c'est un peu ça la réalité aujourd'hui. La mort est de plus en plus cachée, évacuée, la souffrance, donc on ne veut pas trop en parler. Donc on va peut-être vers des situations qui semblent simplifiées. Alors comme vous l'avez dit au début de l'émission, il y a beaucoup de complexité là-dedans, il y a beaucoup de relations à avoir, que finalement la fin de vie fait partie de la vie, quelle que soit cette fin de vie. Et peut-être que, voilà, parce que la mort approche, on veut cacher les choses, il y a quelque chose de cet ordre-là aussi.
On est dans une société très, très ambivalente. C'est un maître mot en soins palliatifs, l'ambivalence. Et je veux quelque chose et je veux son contraire en même temps. Mais oui, notre société est très ambivalente par rapport à la mort parce qu'elle est à tous les coins de nos écrans. La violence est montrée, même sans plus tellement d'effets de masque ou de voile. Enfin, c'est vraiment montré très crûment sur les guerres. Dès que des champs de violence ou dans le cinéma sont montrés. Et paradoxalement, la mort, celle de la vie, la vraie, elle est complètement évacuée. Ça, c'est une réalité de fond. Mais quand j'ai dit tout à l'heure, il faut écouter, mais moi, je suis toujours à écouter le paradoxe de cette société-là. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je peux toujours m'évertuer à condamner, à me dire c'est pas bien que ça soit ça. Mais n'empêche que la réalité est celle-là. Donc comment on fait avec ? Et bien comment on fait avec ? Juste un petit exemple que j'ai à donner par rapport à l'accompagnement des personnes en fin de vie et donc des personnes décédées. Parce que notre travail en soins palliatifs ne s'arrête pas avec le décès de la personne. On ouvre des portes, on ouvre des champs pour accompagner des deuils difficiles, J'ai horreur de l'expression « faire son deuil ». On ne fait pas un deuil, on le vit plus ou moins bien, plus ou moins intensément. Voilà. Et donc, on ouvre des portes dans notre équipe mobile de soins palliatifs avec nos collègues psychologues pour l'accompagnement de deuil. Et pour éviter des deuils compliqués pour des enfants, on aura toujours une intention avec mes collègues de l'équipe mobile et des collègues des unités soins palliatifs ou de l'identifier, c'est que on permette la présence le plus possible de l'entourage, y compris des enfants. Les enfants, ils sont dans la vie, ils sont naïfs par rapport à la vie, ils sont naïfs par rapport à la mort. Et quand on dit à un enfant « Mamie est au ciel », un petit enfant va regarder le ciel et dit « Mais je l'ai pas vu, mamie ». Où est-ce qu'elle est vraiment ? Parce que tu me dis qu'elle est au ciel et on l'a mise dans un trou. Ça, c'est des paroles d'enfant. Donc, il faut pouvoir accompagner ça et le dire. Regarde, mamie, là, elle respire moins bien. Et finalement, sa respiration va finir par s'arrêter. Point. La vie, c'est ça aussi. Donc, qu'est-ce qu'il y a à cacher là-dedans ? Donc, c'est peut-être outrancier. Je vais peut-être choquer énormément de personnes en disant ça. Mais en tout cas, nous, notre intention en soins palliatifs, pour essayer de vivre dans une société qui évacue la mort, mais c'est de, dans chaque situation singulière, voilà, vous dites qu'il ne faut pas que les enfants viennent, bah on va peut-être regarder avec vous sous quelles conditions ils peuvent venir, parce que notre expérience montre que ce n'est pas forcément si bien que ça qu'ils ne viennent pas. Voilà, je dirais des choses comme ça.
Eh bien, Stéphane Melot, merci beaucoup d'être venu. Eh bien, nous donner à penser, à réfléchir à l'occasion de ce débat qui s'ouvre et se poursuit autour de la question de la fin de vie.